Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay.
Bonsoir. Très heureux de vous retrouver après un week-end de folie aux 24 heures Camion Le Mans. J'ai vécu des moments extraordinaires en votre compagnie. Et je m'en suis toujours pas remis. Voilà, retour ce soir en studio pour un sujet historique, les lignards du Moyen-Orient. Tous les détails dans un instant, mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute pour le sud-ouest du pays. Une nouvelle voix dans l'émission, Tatiana Gieselmann. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Un plaisir de vous accompagner effectivement cette nuit dans le sud-ouest.
Dans le sud-ouest et puis dans l'émission pour votre toute première. Bienvenue.
Merci, je suis un petit peu intimidée.
Mais non, ça va bien se passer. Vous allez voir, personne ne mord ici. Pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, lui, il est historique dans cette émission. C'est Hervé Améry. Bonsoir Hervé.
On parle des vieux meubles. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Tatiana. Bonsoir à toutes et tous.
Très heureux de vous retrouver. D'ailleurs, je vous ai envoyé une belle photo d'un beau berlier
oui,
bleu.
Oui, c'est vrai. Alors, un vrai de vrai, hein, pas celui que j'utilise tous les jours en pédalant comme un malade. Mais c'était un berlier citerne. Et merci encore. Beaucoup,
et j'ai pensé tout de suite à vous, voilà.
Et oui, c'est magique. Et les lignards, on parle de ceux qui sont sur la route, hein, pas dans la haute tension. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Non, parce que ça fait un peu plus mal, ceux-là. Ça fait un peu plus mal. C'est-à-dire que c'est une hashtag Claude François, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute et je vous présenterai également tout à l'heure quelqu'un qui m'accompagne ce soir, mais que vous connaissez bien pour la plupart dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 octobre 2024. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo, évidemment. Et tous les sujets autour de votre métier de 21h à 23h.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Et je vous propose en ce mercredi de monter à bord du camion DeLorean. Si, si, il existe. Nous allons vous raconter, enfin surtout nos invités, une époque révolue et qui aujourd'hui semblerait totalement impossible. Les lignards du Moyen-Orient, où quand les routiers français prenaient la route pour l'Iran, l'Irak, le Liban, voire jusqu'au Pakistan. Une vraie période routarde. Vous allez entendre des témoignages que je qualifierais d'exceptionnels. Est-ce que vous avez déjà entendu, vécu ces moments de la route qui nous paraissent aujourd'hui hors norme, aller vers le Moyen-Orient en camion, est-ce que ça vous aurait dit? Au plus loin, tiens, où est-ce que vous êtes allé, vous, au volant de votre fidèle destrier? Pour réagir et même poser vos questions à nos invités, radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Et auriez-vous aimé être un lignard du Moyen-Orient? Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez me dire pourquoi ensuite.
Le jeu.
Miam miam.
Ah, je l'attendais, merci. Le 177, les routiers sont toujours aussi sympas, vous font gagner 3 paniers garnis de produits régionaux, en partenariat donc avec les aires de service. Ce soir, cela vous concerne sur l'A61, axe Toulouse-Narbonne, direction de Narbonne, de la Neuf, sur l'aire de service de Carcassonne-Darzin-Sud. Comment le gagner, c'est très simple. Il faudra vous rendre à la boutique de la station-service d'INEF. Vous présenterez à Sabat ou à Laure en caisse votre carte professionnelle de conducteur routier, avec le mot de passe que je vous dévoilerai avant le point trafic de 21h30. Donc, carte professionnelle et mot de passe, et l'un des 3 lots sera à vous. Radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Cédric nous a écrit « Salut la team, une bonne soirée et bonne émission à vous. Prudence sur la route, respectons nos routiers. » Le CC06 nous a-t-il écrit. Tiens Cédric, le Moyen-Orient, est-ce que ça t'aurait dit si on pouvait encore le faire aujourd'hui? N'hésitez pas à réagir. Radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message. Et vous pourrez me dire si le Moyen-Orient, ça vous dirait ou pas, si nous pouvions en prendre la direction à nouveau. Tiens, dites-moi, où êtes-vous allé au plus loin avec votre fidèle destrier? Et si vous avez des questions pour nos invités, c'est le moment pour comprendre une époque que l'on voit toutes et tous comme révolue.
Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité.
Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Tu as plein de choses à nous raconter sur cette époque folle où un seul trajet représentait des milliers de kilomètres. Mais tout d'abord, qui est Guy ? Quand as-tu passé tes permis et pourquoi avoir eu envie de devenir conducteur routier ?
Oui, bah écoute, c'était un peu de l'avenir de beaucoup de gens là, après la guerre. C'est-à-dire qu'avec comme seul diplôme le certificat d'études et puis les permis poids lourds obtenus au service militaire, puisqu'on avait une opportunité de passer son permis de conduire de poids lourd gratuitement. Et donc ensuite, il fallait chercher du travail. C'était dans les années 63, 64, 65. Et donc l'opportunité qui s'offrait à nous, c'était vraiment de conduire un camion. Conduire un camion, donc d'abord en trafic national, et puis après, on a, bien sûr, l'ambition c'était de voyager, hein, c'était oui. De sortir des frontières. Alors voilà.
Alors passons aux lignes du Moyen-Orient. Alors quand nous parlons du Moyen-Orient, là tout de suite comme ça, c'est assez vaste. Hein. De quel pays parlons-nous exactement à l'époque pour les conducteurs routiers français ?
Oui, alors bon, l'international, voilà, l'international, c'était déjà commencé par l'Italie. Alors les gens de ma génération, je vais avoir 80 ans là bientôt, les gens de ma génération, c'est un bond de 50-60 ans en arrière, c'était l'Italie d'abord, ensuite, c'était les pays de l'Est, qui n'étaient pas faciles à franchir à cause, bien sûr, du rideau de fer, mais le Moyen-Orient, la Turquie, déjà, on était contents de passer la frontière turque à Capicule, hein, on avait traversé, ça voulait dire qu'on avait traversé toute la Yougoslavie, qui était un pays très long à l'époque, oui. Hein, puisqu'ils étaient encore unifiés. Ensuite, on traversait 350 km de Bulgarie, et puis on arrivait à Capicule, à la frontière turque. Et puis, si on voulait pousser plus loin, et on a poussé plus loin, c'était 1900 km de Turquie à traverser, avec des cols, avec des montagnes majestueuses. C'était formidable. C'était formidable.
C'était une autre époque, effectivement. Sur quelle période ça s'est finalement étalé, ces lignes du Moyen-Orient, si on devait parler en années?
Allez, si on voulait parler en années, ce serait à peu près une quinzaine d'années. Pour savoir qu'en fait, ce qui a provoqué cette ruée vers l'or, là, on pourrait appeler ça comme ça, c'était surtout les premiers chocs pétroliers, hein, qui ont fait que les
74.
Pays. Voilà, c'est ça. Hein, les pays du Golfe Persique, l'Iran en particulier, l'Irak également, hein, ont acheté tellement de... Bon, les ports du Golfe Persique, comme Bandar Abbas, Mandarchapour, Khorramshahr, étaient complètement regorgés de marchandises. Et donc, il a fallu emprunter le réseau routier, mais qui n'était pas du tout fait pour ça. Parce que bon, la Turquie, c'était un tiers de goudron, un tiers de nid de poule, et puis un tiers de piste.
J'aime beaucoup, c'est un tiers de nid de poule, ça c'est pas mal. Je pense qu'il fallait avoir de sacrés camions à mon avis pour traverser le Moyen-Orient et ça fera partie de mes questions qui vont arriver dans quelques petites minutes. Reste bien avec nous Guy parce que j'ai encore plein de questions à te poser. D'ailleurs, une première réaction de Thierry qui nous a écrit « Bonsoir Sébastien ». Lui il a été au plus loin, alors je sens que je vais bien me vautrer sur les noms de villes tout au long de cette émission, mais Guy sera là pour me rattraper. Il nous dit qu'il a été jusqu'à Kayseri en Turquie, plusieurs voyages pour la marque Rhône-Poulenc chez Yokum qui fera partie de nos invités. L'entreprise Yokum, je vous en dis pas plus, ça sera tout à l'heure. Voilà, Kayseri, ça se dit bien comme ça, Guy ?
Oui, tout à fait, Kayseri, voilà, exactement. Hein, voilà, c'est en Turquie, c'est déjà pas. Il est déjà allé assez loin de routier, là. Je le félicite.
Voilà, Thierry qui a été donc jusqu'en Turquie. Auriez-vous aimé être un lignard du Moyen-Orient ? C'est notre sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez me dire pourquoi ensuite via la bulle bleue Messenger. On retrouve Guy juste après l'infotrafic. Et nous sommes toujours avec Guy, qui était donc conducteur routier sur les lignes du Moyen-Orient. C'est notre sujet de ce soir. Avant de parler de tes aventures personnelles, beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs, et moi le premier pour le coup, peuvent se demander qu'est-ce que nous pouvions transporter comme type de marchandises jusqu'au Moyen-Orient.
Oui, donc c'est à moi que tu poses la question.
Ah bah oui, Guy. Oui.
Oui, d'accord. Oui, ben effectivement, on transportait un peu, je dirais quelque part n'importe quoi. Certains transportaient des poulets de Bretagne. Et puis, moi, je roulais beaucoup aussi pour la maison Philips de Eindhoven en Hollande. On emmenait du matériel, beaucoup de matériel. À cette époque-là, l'Iran, qui est un grand pays avec de grands déserts, voulait équiper tout le pays pour faire de l'enseignement à distance. Donc, ils équipaient par des stations-émissions, etc. On emmenait beaucoup de matériel électronique, etc.
J'étais en train d'imaginer les poulets partant de Bretagne allant jusqu'en Iran et en Irak.
Voilà,
ça devait être un sacré transport quand même.
Ben oui, parce qu'il fallait du matériel adapté, il ne fallait pas que les gars tombent en panne de frigo. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de frigo, je faisais que de la Savoyarde. Et les gens qui nous écoutent savent ce que c'est que de Savoyarde. C'est des camions bâchés qui sont utilisés le plus couramment en sport. Mais c'est vrai qu'on emmenait beaucoup de poulets sur l'Irak, etc. On transportait aussi du matériel aussi pour des sociétés françaises, hein, comme Bouygues, etc. Et pour Renault également, hein, en Irak, par exemple, à Basra, etc. Donc on pouvait transporter un peu n'importe quoi, je dirais, parce que les pays producteurs de pétrole achetaient tout, ils avaient besoin de tout, des médicaments y compris.
Alors, est-ce que c'était un aller et retour à plein ou il y avait un trajet qui se faisait à vide ?
Alors, c'était le problème des transporteurs, et ça d'ailleurs Gérard Yocoum pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait nous partions toujours en charge, bien évidemment, parce que c'était bien rémunéré. Ensuite, pour revenir, ben, on revenait souvent à vide, et nous rechargions soit en Grèce, soit dans le nord de l'Italie. Et c'est vrai que des retours à vide, il fallait que l'aller paye pour le retour, mais le gasoil était à peu près à 20 centimes le litre à l'époque en Iran, donc les transporteurs arrivaient à s'en sortir correctement.
Attends, tu peux répéter le prix, s'il te plaît ?
Oui, c'était 20 centimes le litre à l'époque.
Oui, j'ai bien entendu. j'ai bien entendu. Alors, la question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est au plus loin, tu as été jusqu'où ?
Oui, alors moi, le plus loin, je suis allé une fois à Kaboul. Bon, c'était un transport un peu exceptionnel qui ne s'est pas forcément très bien passé parce que ce n'était pas une ligne régulière. Par contre, moi, j'étais habitué sur l'Iran, le golfe persique, c'est-à-dire Bandar Abbas, Bandar Chapour. Enfin, c'était vraiment le plus loin que j'allais régulièrement. Hein. Occasionnellement, je suis allé en Irak, en Arabie, mais j'étais plutôt un abonné sur l'Iran avec le col du Tahir, le fameux col du Tahir que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de routiers de cette époque connaissent.
Alors, là, j'imagine certains de nos auditeurs, notamment peut-être les plus jeunes qui connaissent malheureusement le contexte international dans ce secteur, hein, du Proche et du Moyen-Orient, on a du mal à s'imaginer que c'était beaucoup plus calme à l'époque, Guy.
Oui, c'est vrai que c'était plus calme. Il y avait, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, la ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup de camions occidentaux qui allaient là-bas parce qu'il y avait eu aussi une crise en Europe du transport. Il y avait moins de travail sur l'Allemagne, sur l'Italie, etc. Donc, tout le monde s'est précipité un peu là-bas, si bien que là-bas, on faisait route beaucoup avec des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des Suisses, des Luxembourgeois, etc. Il y avait une bonne ambiance quand même. Bon, à part l'état des routes qui était quand même relativement dangereux, parce que par exemple l'été il faisait très très chaud, l'hiver il y avait la neige dans le Tahir, il fallait mettre les chaînes, il fallait surtout pas oublier son câble de remorquage.
Alors oui, ça je veux bien le croire, parce que justement je me suis posé la question, avec quel type de camion, quelle marque tu allais là-bas, est-ce qu'à l'époque il y avait le camion qu'il fallait pour aller au Moyen-Orient?
Oui, alors je ne veux pas faire de publicité pour une marque en particulier. Moi, j'y suis allé avec un Volvo F88 et j'en étais très content parce que jamais de panne. Mais j'y suis allé également avec un SM300 camion remorque de la société Stouff. J'y suis allé aussi avec un NHL 191. Bon, les gens qui nous écoutent savent de quoi je parle. Et puis aussi avec un Mercedes 1926. Mais sinon, bon, c'était les marques classiques, hein, Renault, Scania, Volvo et Mercedes. Mais par contre, les Iraniens, les Turcs, etc., avaient plutôt des marques américaines. Ils avaient plutôt des camions américains. Cela dit, je tiens à rendre hommage quand même à nos amis turcs. On était bien dépannés en Turquie quand même. Il y avait de sacrés mécanos là-bas. Je me souviens par exemple un jour d'avoir cassé mon pare-brise. Et ben, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a posé un pare-brise en tranche avec une incision d'un côté, une incision de l'autre. J'avais été vraiment surpris, mais c'était toujours pour nous dépanner. C'était des gens, et les Turcs sont vraiment des gens sympathiques. Je leur fais un petit bonjour d'ailleurs.
Alors, à l'époque, pas de téléphone portable, pas d'informatique, hein, il faut le rappeler. Les contacts avec la famille, ça se faisait comment et à quel moment ?
Ah ben alors là, écoute, là tu touches un point sensible, parce qu'on aurait pu avoir un drame dans notre famille et puis ne l'apprendre qu'au retour. C'était, il y a beaucoup de collègues là qui nous écoutent peut-être, qui ont fait cette époque-là, ont tous connu des retours en catastrophe. Ouais. Et puis beaucoup de routiers de cette époque-là ont eu des ménages brisés, puis des problèmes de famille. C'était pas facile. Il y a eu des... Oui, effectivement. Même pour moi, je suis resté encore... Bon, ben, ça fait 50 et quelques années que je suis avec la même femme, mais elle a eu beaucoup, beaucoup de patience.
Oui, il faut de la patience en attendant de pouvoir avoir un contact avec son mari. Tu dirais que c'était une fois par semaine, un peu plus, tu t'arrangeais pour avoir un contact régulier, ça ?
Une fois par semaine, pas plus. Hein. Ouais. Quand on arrivait chez un transitaire, par exemple, qui voulait bien nous permettre d'utiliser son téléx ou son téléphone, on s'arrangeait toujours pour donner des nouvelles une fois par semaine.
Alors j'ai Yannick qui nous écrit ce soir et qui nous dit « Il est passionnant ce monsieur en parlant de toi ». Yannick nous dit « Demat Sebamax, tes copilotes Max et la Max Patrouille, alors bien remis de ce merveilleux week-end au Mans ». Non, pas encore, je ne suis pas totalement remis, j'ai encore mes pieds qui sont quelque part perdus entre le Mans et ici. Hormis l'accès plus que compliqué une fois de plus cette année, une fois sur le circuit, que du bonheur comme d'habitude. Il nous dit, pour le sujet de ce soir, effectivement, faire ces trajets m'aurait plu. J'ai d'ailleurs un profond respect, une grande admiration pour ces lignards. Aujourd'hui, la plupart des routiers français sont confinés sur le territoire français, alors qu'à une époque, nous étions reconnus pour notre savoir-faire à travers l'Europe et bien plus loin. Une époque que nous ne revivrons plus, malheureusement, les bons chiffres qu'Ena... Kenard Véchal, pardon, signé donc Yannick qui nous écrit. C'est intéressant ce message. Une année très symbolique d'ailleurs, 1979, la révolution iranienne et le second choc pétrolier. J'imagine que la bascule a eu lieu à ce moment-là, Guy.
Tout à fait, oui, parce qu'en fait, les portes de l'Iran nous ont été fermées. Là, l'ayatollah Khomeini est arrivé là-bas, il n'a pas eu tellement de reconnaissance pour avoir été hébergé longtemps par la France, à Neuf-le-Château. Et puis, voilà, mais est-ce que ça a été fermé pour tous les pays d'Europe ? Peut-être pas, mais la France, en tout cas, alors que nous étions en train de transporter du matériel pour construire le métro de Téhéran, enfin, il y a eu beaucoup de marchés qui se sont écroulés, donc il a fallu se réorienter plutôt vers le bas, c'est-à-dire vers la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite. Et là, ça a été un problème pour tous les transporteurs qui ont dû revoir un petit peu leur trafic. Et malheureusement, beaucoup de transporteurs ont dû déposer le bilan à cette époque-là parce que voilà, il y avait les places sur l'Italie, l'Espagne et toute l'Europe étaient prises. Voilà.
Tu as été formateur également, après avoir été conducteur routier. Sur tes dernières années de formateur, quand tu parles du Moyen-Orient, quelles étaient les réactions des personnes que tu formes en face de toi, j'imagine, avec des yeux un petit peu brillants?
Oui, bien sûr. Lorsque je suis entré à l'éducation nationale pour enseigner le métier de routier sur un CAP en 3 ans au départ, ensuite sur 2 ans, ensuite sur un BEP, bien sûr que j'aurais pu passer des heures et des heures à parler de cette époque-là et puis de mes anecdotes sur la route. Mais bon, il y avait tout l'enseignement à faire. Il y avait quand même c'était un CAP qui n'était pas facile, mais qui passionnait beaucoup les jeunes de 16 à 18 ans, et nous avions aussi des jeunes filles. On commençait à avoir des jeunes filles candidates, et d'ailleurs qui s'en tiraient très bien, qui étaient plutôt douées d'ailleurs. Et puis j'espère que... D'ailleurs, le marché s'est ouvert quand même beaucoup aux femmes, et notamment surtout sur le transport de voyageurs.
Eh ben oui, en effet, et on a l'occasion souvent d'en parler dans cette émission. Une dernière question, nous sommes en 2024, que penses-tu du métier à aujourd'hui ?
Aujourd'hui, mon rôle n'est pas d'aller démoraliser les jeunes qui ont choisi ce métier-là, parce qu'il y a toujours ces formations. Il y a environ 50 lycées en France qui forment à ces formations, donc je les encourage bien sûr à devenir conducteur routier si c'est leur passion, mais je pense que le marché depuis la chute du rideau de fer, je crois que les petits transporteurs français ont beaucoup souffert de l'arrivée sur le marché de centaines et peut-être de milliers de véhicules venant de l'Est, Pologne, Lituanie, et bon, j'ai entendu dire même que bientôt les Chinois arriveraient jusque chez nous en traversant la Russie. Voilà. Mais maintenant, je pense que les routiers ont encore un bel avenir sur la Scandinavie, la Finlande, la Suède, etc.
Alors enfin, Guy, je vais te proposer, si tu le veux bien, de rester encore un petit peu avec nous. Tu pourras écouter et participer à notre prochaine interview qui arrivera après l'infotrafic. Reste bien en ligne parce que là, tous les retours que j'ai, c'est que tu es un monsieur très passionnant et tout le monde est en train de t'écouter bien soigneusement. Alors reste bien avec nous encore quelques minutes. Hein. Tout d'abord, nous allons partir en Occitanie.
Le jeu.
Miam miam.
Eh oui, ça y est, c'est parti. Je vous le rappelle, il y a 3 cadeaux à gagner. Cela vous concerne si vous circulez sur l'autoroute A61, axe Narbonne-Toulouse, direction Toulouse. Pas du tout. L'axe Toulouse-Narbonne, ça sera mieux dans ce sens-là, en direction de Narbonne et de la Neuf, sur l'aire de service de Carcassonne-d'Arzins-Sud. Et partons tout de suite retrouver Christian Bergamo. Bonsoir, Christian.
Et bonsoir à tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de la station-service d'INEF de l'air. Oui, présentez-nous un petit peu votre aire de service, s'il vous plaît.
Eh bien, notre aire, comme tu l'as dit, est située donc sur la 61, en direction de Narbonne. Et donc, c'est une aire qui a été récemment rénovée en 2023 et qui est très bien étudiée pour nos amis routiers et routières. Voilà.
Donc, dans ces paniers garnis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon comme produits régionaux? Attention, faites-nous plaisir.
Alors, mais ça fait, ces paniers garnis font honneur à la gastronomie, je dirais, locale, hein, avec le fameux cassoulet de Castellandari,
oui.
Du friton de canard, du pâté au piment d'Espelette, et un saucisson géant des Pyrénées, voilà.
Vous avez mangé
presque 2 mètres.
Ah oui, quand même. Tatiana, vous avez mangé un cassoulet vous ce soir ou comment ça se passe?
Ah non, il fait pas encore assez froid pour le cassoulet.
Hervé, je suis sûr qu'il est parti chercher un panier garni. Restez dans votre studio, Hervé, ça suffit.
Ah non. Moi, je ferai bien de l'escrime avec le saucisson géant. Et si je bats l'adversaire, je prends les 2 saucissons.
Ah bah bien sûr, tout va bien. Je rappelle donc que cela se passe sur l'aire de Carcassonne d'Arzins Sud, sur la 61, en direction de Narbonne, La Neuf, Montpellier, Perpignan, kilomètre 312, juste après la sortie 23 Carcassonne Ouest. Il faut vous rendre à la boutique de la station-service d'INEF. Vous présentez à Sabah et Laure à la caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe qui est ce soir Moyen-Orient, comme c'est bizarre. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message, une photo sur radio177.fr, vu que vous serez à l'arrêt. Bonne chance à tous. Merci Christian, très belle soirée, plein
Merci
de courage
beaucoup,
à l'équipe.
Ouais. À
bientôt.
Oui, très bien. Bonne soirée à vous. Au revoir.
Au revoir. Auriez-vous aimé être un lignard du Moyen-Orient? C'est notre sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez me dire pourquoi ensuite. Au plus loin, où êtes-vous, tiens, déjà allé avec votre fidèle destrier? Est-ce que vous avez conscience et connaissance de cette époque qui nous paraît si loin et pourtant elle a bien existé? Dans quelques minutes, je serai en ligne avec une nouvelle invitée, Daniel et son mari ont créé à l'époque une entreprise de transport qui avait pour principale destination le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est à suivre dans un instant. Et il y a Alec dit Boubou, notre célèbre Boubou qui nous donne de ses nouvelles ce soir. Salutations à vous, la tour de contrôle du 177. J'espère que tout le monde va bien. Très heureux de te revoir 24 heures camion. C'est Bamax pour le sujet du soir. J'aurais été heureux de pouvoir partir comme ça à l'aventure. Malheureusement, c'est une époque révolue. Ou alors, c'est très compliqué de trouver les entreprises qui y vont. Bonne émission à vous, la prudence et bonne route aux vieilles chouettes. Signé Boubou de Bouboulande. Vous aussi, écrivez-moi radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez me dire si le Moyen-Orient ça vous aurait dit ou pas et pourquoi. Et tiens, au plus loin avec votre fidèle destrier, où êtes-vous allé? Avant de retrouver notre prochaine invitée, il est toujours en compagnie de Guy.
En direct avec vous, les routiers.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, Daniel Yokoum. Et avec votre mari Gérard, vous aviez fondé les Transports Yokoum avec la particularité de faire vos trajets en direction du Moyen-Orient et même jusqu'en Afrique. Alors on a toujours aussi Guy qui est avec nous en ligne. Alors tout d'abord, Daniel, pourquoi vous êtes-vous lancé dans le métier, que ce soit vous personnellement, mais aussi avec votre mari ?
Pourquoi c'est difficile de vous expliquer, disons que on a voulu tenter l'aventure,
ouais.
Se dire peut-être que on réussirait, ou enfin je peux pas vous dire exactement.
Finalement,
on avait envie de.
C'est ça, une envie.
Une envie de tenter quelque chose que personne n'avait fait jusque-là, quoi. Enfin, si, il y en avait beaucoup quand même déjà, les Anglais, tout ça, il y en avait pas mal déjà.
Alors, d'ailleurs, je reçois des messages hein, depuis tout à l'heure. Il y a Thierry qui nous a écrit, qui vous a vu la semaine dernière, nous dit-il, Gérard et Daniel Yokoum, il y a 10 jours, repas des anciens chauffeurs. Et il nous envoyait quelques photos en douane à Istanbul avec les copains au Londra Camping, mon F12 en Turquie. Déchargement, alors là, je sens que je vais me tromper dans la prononciation. Déchargement de Skuranat, je ne sais pas, T80 pour Ron Poulenc et les boss. Une bise à Gérard de la part de Thierry Pélez. De ma part, merci. Dany, ça fait drôle de l'entendre, une femme exceptionnelle. Et ben voilà, ça c'est tout ça, c'est que pour vous, Daniel. Vous voyez, c'est des messages que je reçois en direct en ce moment. Qu'est-ce que vous transportiez majoritairement avec votre entreprise? C'était quoi ce que vous transportiez dans les camions?
Bah sur le Moyen-Orient, c'était surtout du matériel de chantier. C'était des ouvertures de chantier, donc il y avait des machines, il y avait un petit peu de tout, des fer à béton, on a transporté du ciment, on a transporté des briques réfractaires pour les fours de Bassora. Voilà, tout un tas de produits manufacturés aussi, et un petit peu de tout, quoi.
Alors, c'était essentiellement votre mari qui prenait la route. Je crois qu'il y avait votre fils aussi.
Ben, mon fils, oui, il a commencé, il avait 18 ans.
Ouais.
Ah oui. Et il sortait de l'école des routiers. Et il a son premier voyage, ça a été pour aller au Niger. Voilà.
Ah oui.
Le Sahara, avec un autre chauffeur. Donc je l'ai mis avec lui et ils sont partis sur le Niger. Voilà.
Est-ce que vous passiez par le Moyen-Orient justement ou vous preniez le bateau pour rejoindre les côtes du Maghreb?
Ah ben oui, on prenait le bateau à Marseille, oui, pour aller à Alger. Et puis après on descendait à Alger jusqu'à Samaka, qui était le poste de douane du Niger, donc en traversant tout le Sahara. Ortaman Rasset, et puis voilà, donc ils avaient à peu près 700 km vraiment de sable après Taman Rasset, et voilà, et là il fallait...
C'était le Paris-Dakar avant le Paris-Dakar, quoi.
Oui, mais sans assistance.
Oui, ça je veux bien vous croire.
Voilà.
Mais vous l'avez pas ménagé, fiston, quand même, 18 ans, paf, tu pars au Niger.
Ah, il n'avait pas encore son permis dans la poche, il l'avait réellement, mais il ne l'avait pas en papier, quoi, je veux dire.
Ah oui, on n'a rien entendu, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant.
Enfin, il était avec un autre chauffeur, assidu, enfin...
Oui, bien sûr.
Un grand chauffeur aussi, qui s'appelait Serge Pagès, oui, et qui était un ami de notre famille, et qui a démarré avec mon mari, voilà aussi.
Le confort, en plus, était, on peut le dire, hein, beaucoup plus rudimentaire qu'aujourd'hui dans les cabines.
Ah oui, non, mais sans rien de comparable. J'appelle ça des... Maintenant, ils ont des Rolls-Royce, et avant, ils avaient des deux chevaux, quoi.
Oui, c'est la comparaison, je pense que tout le monde l'a pour le coup. Vous aviez quoi comme type de camion et de marque pour votre entreprise?
Ben, on a démarré avec du Scania.
Ouais.
C'était le camion majoritaire, un petit peu, même des étrangers là-bas à l'époque. Et on a démarré avec un 110 Super Scania, et puis après un deuxième, et ainsi de suite, quoi. Puis après, comme Scania n'avait pas encore le confort qu'avait eu Volvo à l'époque, et après on a pris du Volvo parce qu'il y avait la clim que Scania n'avait pas encore mis, mais la clim, nous on la mettait après par-dessus sur le Scania, il y avait des appareils exprès, mais bon, Volvo s'était mis un peu en avance sur Scania, quoi, à un moment donné. Quoi.
Daniel, votre entreprise est allée au Moyen-Orient jusqu'en quelle année ?
Eh ben jusqu'en 90, puisqu'il y a eu la guerre du...
Du Golfe ?
Du Golfe.
D'accord.
Voilà, et on y est retourné après à la fin de la guerre du Golfe, en 92, je crois. On y est retourné, mais sur le Qatar, on a fait encore 4 ou 5 camions, puis après on a arrêté, quoi. On ne pouvait plus y aller comme avant, quoi. C'était plus du tout pareil, donc on s'est orienté sur la Turquie, et comme on avait un client qui était sur la Turquie assez important, quoi. C'est-à-dire un client, c'était Ron Poulin qui nous donnait à l'époque du travail, et donc on transportait du Scuramap, voilà.
D'accord. Alors, pour ma culture personnelle et peut-être pour certains de nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le Scuranat ?
Ce Scuranat ou Toluane, si vous voulez, c'est un produit qui est classé parmi les produits dangereux, mais et qui est, comment dire, qui constitue un constituant de peinture.
D'accord, si ok. D'accord,
c'est ce qu'il y a... faire de la peinture.
D'accord.
Voilà.
Alors, que pensez-vous ? Moi, j'ai envie de vous poser cette question, puis on reviendra sur le Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pensez du métier, vous, aujourd'hui, en 2024 ?
Le métier en 2024, il était déjà très difficile à notre époque, parce qu'on ne ressortait pas avec des...
Oui.
Par rapport au travail qu'on exécutait, si vous voulez, on n'avait pas... Le fruit, on n'en récoltait pas beaucoup de fruits, malheureusement.
Oui.
On a des bénéfices qui sont presque inexistants si vous avez des pépins, quoi, pratiquement. Donc, malheureusement, c'est le risque du métier, les accidents et tout ça.
Alors, justement, vous, c'est votre mari qui partait. On en parlait avec Guy tout à l'heure, qui est toujours avec nous en ligne. Il nous disait que des fois, c'était une fois par semaine contacter sa famille. Vous étiez quand même... est-ce que vous saviez que globalement, ça allait bien se passer, ou vous aviez quand même des moments un petit peu d'angoisse, de ne pas avoir de nouvelles de Gérard sur votre trajet? Je pense que c'est des questions que nos auditeurs se posent aujourd'hui à la période, à l'époque des smartphones, où on peut contacter n'importe qui, n'importe quand, en fait. Vous, à l'époque, ça devait être un peu compliqué pour vous.
C'était compliqué, oui. On avait des rapports, disons, c'était le TX, hein, à l'époque. Hein. Et puis, des communications qui... Une fois tous les 3-4 jours, des fois plus. Une fois tous les 7 jours, ça dépendait où on allait. Quand on allait sur Téhéran, c'était le dernier appel, c'était le TX Motel à Ankara, et puis après, on n'avait plus de nouvelles jusqu'à pratiquement Téhéran. Mais bon, ils arrivaient des fois à me contacter, quoi. Mais bon,
c'était pas toujours évident.
C'était trop long, alors il fallait trouver un bureau de poste, et puis après, c'est surtout trop long à attendre, quoi. Les communications, quoi. Alors quand on voit maintenant, ils ont quand même beaucoup de facilité.
Exactement. Tatiana, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Telex?
Il a décidé de me poser des pièges. Non, je n'en ai aucune idée.
Ah, faudra aller voir. Avant, on recevait, figurez-vous, les dépêches AFP, on les recevait par Telex, sur des téléscripteurs, figurez-vous.
J'ai encore connu l'époque du Minitel, pour l'instant, pourtant. Mais le Telex, je ne l'ai pas.
Bon, en tout cas, un grand merci, Daniel, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir partagé un tout petit peu de votre expérience, parce que je sais qu'à mon avis, on pourrait tenir 3-4 heures faciles à échanger avec vous, voire plus. On va retrouver Guy juste après pour continuer de le faire réagir. Et en tout cas, un grand merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous ce soir, Daniel.
Et j'espère que cette voiture, elle va stopper sa course, en contre-sens.
Oui, je peux vous dire que nous aussi, on aimerait bien qu'elle stoppe. Et nous aussi, on ne comprend jamais comment c'est possible. Encore un grand merci.
Parce que moi, j'ai manqué m'en prendre une comme ça de face. Alors,
Oui, ça se...
En contresens, alors...
Oui.
Et on sait ce que c'est que la peur, hein.
Oui, effectivement. Et Hervé va venir nous en parler dans quelques petites secondes. Encore un grand merci, Daniel, d'avoir été avec nous. Daniel Yocoum, passez le bonjour à votre mari Gérard, évidemment. Très belle soirée.
Je n'y manquerai pas. Et à vous aussi. Au revoir.
Allez, je vous le rappelle, il y a également 3 cadeaux à gagner. Hervé, j'ai besoin d'un jingle.
Miam miam.
Cela vous concerne si vous circulez ce soir sur la 61 axe Toulouse-Narbonne, direction Narbonne de la Neuve sur l'aire de service d'Arzin Sud au kilomètre 312. Juste avant la sortie 23 Carcassonne-Ouest, il faut vous rendre à la boutique de la station service d'INEF. Vous présentez à Sabah l'or à la caisse votre carte pro de conducteur routier avec le mot de passe qui est ce soir Moyen-Orient. Et puis, auriez-vous aimé être un lignard du Moyen-Orient? C'est notre sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas, ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange, votez et venez me dire pourquoi. Ensuite, via la bulle bleue Messenger, on retrouve Guy dans un instant. On était en Afrique, au Niger. Je vous propose cette chanteuse Kajanine qui avait fait un tube de l'été en France. C'est une chanteuse burundaise avec Sambolera Maïson, mais je vous propose d'écouter cette chanson qui s'appelle Mama. Et en fait, Guy, je t'ai gardé avec nous parce qu'en fait, y a des messages d'auditeurs qui me font poser des questions. Alors même des fois, s'ils le tournent de la façon humoristique, parce qu'il y a Patrice qui nous a écrit « Bonsoir la Max Academy, moi ça m'aurait peut-être plu, mais le problème c'est que je ne parle pas un mot de suédois. » Sauf qu'on parle pas on parle pas le suédois au Moyen-Orient, mon cher Patrice. Patrice, un jour, il faut vraiment qu'on parle, vraiment, si j'insiste. Alors Guy, la question, ceci dit, elle est beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus sérieuse. Et elle va de soi, c'est la barrière de la langue. Comment on faisait à ce moment-là?
Oui, alors ça, effectivement, c'est là qu'on peut regretter de ne pas avoir travaillé davantage à l'école. Enfin, les routiers internationaux, généralement, se débrouillaient pas mal. On parle pas forcément une langue, mais on arrive toujours à trouver les mots. Et en anglais, on a quelques mots, en allemand. Et alors, on arrivait même à parler un peu le turc. Voilà. Et d'ailleurs, merci de passer ces musiques turques qui nous transportaient beaucoup sur la route et la nuit, quand on roulait la nuit, traverser la Turquie la nuit avec des musiques turques, j'adorais ça, moi.
Ah oui, c'est vrai. Vous aviez comme ça, vous mettiez les radios turques, du coup, à ce moment-là, oui. Hein, et ça vous transportait. Alors, vous étiez déjà transporté très loin, mais la musique, elle vous transportait aussi, alors.
Ah oui, 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 tout à fait. On avait besoin. Oui, on n'avait pas la télévision dans les cabines à l'époque. Mais, par contre, moi, je me branchais toujours sur les radios locales et j'aimais bien les radios locales, que ce soit en Iran, en Turquie, en Arabie, n'importe où. Et ça nous aidait déjà. Enfin, quand on aime l'Orient, on aime ou on n'aime pas. Hein. Mmh. Moi j'adorais personnellement l'Orient. Mmh. Et donc, j'ai vécu là-bas de très très belles années.
Cocombeur masqué, dit Didiche 44. Alors, j'ai que des surnoms partout dans ce-là, mais c'est comment ton prénom? Le gars est très très intéressant, nous dit, alors en parlant de toi, hein, Guy, il n'a pas la grosse tête, entendre parler ce pionnier, ça me fait briller les oreilles, moi qui est en retraite dans 6 mois et qui malheureusement n'a pas fait le Moyen-Orient, faute de courage ou de savoir, chapeau bas, monsieur Guy. Il nous dit, pour moi, 10 pays à mon actif et le plus loin fut Vienne en Autriche. Une question, Guy, qui peut paraître un peu bizarre, peut-être un peu bête aussi, mais je t'avais prévenu, hein, je t'avais dit qu'il allait y avoir des questions bêtes tout au long de cette émission. Est-ce qu'il fallait un certain savoir-faire pour aller au Moyen-Orient, un savoir-être aussi? Est-ce qu'il fallait avoir certaines qualités bien précises?
Oui, c'est pas une question bête du tout. Hein. Je pense que beaucoup s'y sont essayés et n'ont pas pu continuer parce que, comme tu disais, il fallait un certain savoir-être. C'est-à-dire, quand on se trouve dans un pays étranger qui a une culture complètement différente de la nôtre, eh ben, il faut savoir s'adapter et surtout ne pas choquer les gens. Voilà. Et je crois que les gens qui ont eu des problèmes en faisant le Moyen-Orient en tant que routier, mais c'est un peu comme touriste aussi, c'est un peu le même problème. Soit on s'adapte, ou alors on n'y retourne pas, ou alors on revient avec de mauvais souvenirs. Bon, ben, il faut s'adapter aux cultures que des pays qu'on traverse. Et les pays d'Orient sont très particuliers par rapport à la culture occidentale, évidemment.
Là aussi une question, parce que est-ce que les femmes conductrices routières s'engageaient également vers le Moyen-Orient, parce que on sait très bien que ça pouvait, c'était déjà compliqué pour elles en France, mais ça se passait bien au Moyen-Orient?
Alors moyennement bien quand même. Certaines comme Josette par exemple, qui était connue sur la ligne, Josette, il y a eu plusieurs femmes Madame Brosse également, enfin je ne vais pas citer tous leurs noms, mais j'ai bien connu 5-6 femmes qui ont pris le risque et puis qui, ma foi, qui ont rencontré peut-être des petits problèmes personnels, mais qui ont pris le risque, et puis bah, chapeau bas, parce qu'en fait, il fallait s'y aventurer quand même. Mais elles n'étaient jamais seules, elles avaient toujours des routiers européens qui les encadraient, et puis bon, je pense que les gens, les Turcs, les Iraniens, les Saoudiens, etc., savent aussi, connaissent aussi leurs limites par rapport aux femmes. Ils savent bien que les Occidentales ne se comportent pas de la même façon et ne s'habillent pas de la même façon. Voilà, il suffit de s'adapter, c'est tout.
Eh bien, grand merci Guy de nous avoir fait part de cette petite part d'expérience, parce qu'on imagine qu'il y aurait beaucoup à dire encore, mais certainement l'occasion de refaire une émission et d'échanger à nouveau avec toi sur cette formidable période. Encore un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, Guy. On te souhaite une excellente soirée.
Eh bien, merci. C'est une très bonne idée de faire cette émission-là. Et j'ai un petit bonjour d'ailleurs à la famille Okoum, que je connais bien. Et puis aussi à Francis Cani, là, le livre « Des camions et des hommes » qui devrait inspirer quand même beaucoup de collègues.
Eh bien, le message est passé. Francis Cani, qu'on connaît bien dans cette émission, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir. Belle soirée à vous. Belle soirée merci. À toi, Guy. À bientôt.
Merci, au revoir.
Seconde partie de votre émission, bienvenue si vous venez de nous rejoindre.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Les lignards du Moyen-Orient. Une époque, une période, des histoires. Quand les routiers français allaient jusqu'en Iran, en Irak, voire le Pakistan, le Yémen. La géopolitique du moment nous montre que ce serait impossible de reprendre la route persane. Ce soir, des témoignages de conducteurs qui ont fait des milliers de kilomètres pour un seul et même trajet à chaque fois. Connaissez-vous bien cette époque des lignards du Moyen-Orient? Tiens, ça vous aurait dit, vous, des trajets jusqu'au Moyen-Orient, et pourquoi? C'était également une autre époque du transport routier de marchandises. Vos messages, réactions, témoignages et même vos éventuelles questions quand vous n'êtes pas en train de conduire. Radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Auriez-vous aimé être un lignard du Moyen-Orient? Sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas, ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous dire pourquoi. Ensuite, Hervé, est-ce que vous auriez un jingle pour moi si vous êtes disponible?
C'est ma deuxième langue, miam miam.
Je vous rappelle qu'il y a 3 cadeaux à gagner. Cela vous concerne si vous circulez sur l'A61 ex-Toulouse-Narbonne, direction Narbonne et la 9, sur l'aire de service d'Arzins Sud, au kilomètre 312. Il faut vous rendre à la boutique de la station-service d'INEF, vous présenter à Nathalie et Jean-Marie maintenant à la caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe qui est ce soir moyen Orient. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr vu que vous serez à l'arrêt. Bonne chance à tous. Tatiana, Hervé, si je vous dis Jean-Michel Jarre, là j'ai tout le monde, on est d'accord?
Oui. Là c'est bon, voilà. La French Tech, connaît.
Si je vous dis Natacha Atlas, là aussi j'ai tout le monde.
Là c'est bon aussi, voilà. Très classique.
Est-ce que vous saviez qu'ils avaient fait quelque chose à deux? Je parle de musique, hein, toujours. Voilà. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'ils avaient fait ça?
Non, là, c'est une colle.
Là, non. Hervé, vous le saviez?
Alors, je ne sais pas, mais je sais en revanche que j'ai perdu du coup, j'ai perdu le fil.
Je suis pas sûr qu'Hervé sache vraiment.
Que notre chanteuse là, dont vous venez.
Natacha Atlas.
Voilà, Natacha Atlas. Merci. Natacha Atlas fait souvent des participations avec beaucoup de musiciens, notamment notamment des musiciens au Liban, en Égypte, et elle produit beaucoup en association avec d'autres personnes. Donc ça m'étonne à moitié, mais je ne le savais pas.
C'était en 1999, issu de l'album Métamorphose de Jean-Michel Jarre. Je m'en souviens, j'avais le CD de titre, pour tout vous dire. Oui, ça, non, ça, je sais, ça ne te parle pas, Tatiana, CD de titre, voilà.
C'est vieux, oui, c'est avant les années 2000, c'est ça que vous êtes en train de dire.
1812, voilà. Voici Jean-Michel Jarre avec Natacha Atlas, avec C'est la vie. Merci pour vos messages vocaux, mais malheureusement en studio je ne peux pas les écouter, donc lors de votre prochaine pause, n'hésitez pas à m'écrire radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message, et vous pourrez me dire si le Moyen-Orient ça vous dirait ou pas d'ailleurs, si nous pouvions en prendre la direction à nouveau. Tiens, dites-moi, où êtes-vous allé au plus loin, et si vous avez des questions pour notre prochaine invité dans quelques minutes, c'est le moment pour comprendre une époque que l'on voit toutes et tous comme révolus. Message de Thierry Pélez qui continue de nous écrire, nous envoyer d'ailleurs de chouettes photos. Il nous dit Philippe Lariot, dernier chauffeur à être sorti d'Irak pendant la guerre, porté disparu une semaine. Un conducteur routier qui est donc porté, qui avait été porté disparu. Nous raconte Thierry, nous envoyer une chouette photo, merci. Il nous parle de Josette dont nous a parlé Guy tout à l'heure, je crois. Était l'une des rares femmes à prendre la direction du Moyen-Orient. Parmi d'autres messages, on a Luffy qui pose une question à Tatiana. Hello Sebamax, est-ce que Tatiana sait lire les signaux de fumée puisqu'elle sait lire le morse?
Bah alors s'ils sont en court long, ça marche, mais il faut que la personne fasse des signaux de fumée en morse.
En morse. Ça devient compliqué votre histoire là, quand même.
Ça marche pas trop par tous les temps.
Non. Ouais, s'il pleut, c'est gênant.
Voilà, par exemple.
Voilà. Bon, Luffy, est-ce que le Moyen-Orient, ça t'aurait dit? N'hésite pas à nous en dire un peu plus également. Yannick nous a écrit. Alors, j'imagine bien la tête d'un jeune qui vient de débuter, qui rentre dans l'entreprise, qui va voir l'exploitant. Bonjour, je vais où aujourd'hui? Et là, l'exploitant répond au Niger. Le mec se décompose, pose les affaires et s'en va. Quand je vois qu'aujourd'hui, pour une déviation, certains paniquent. C'était vraiment une autre époque. Merci Yannick pour ce témoignage, et n'hésitez pas à continuer de réagir à radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Capucin également nous avait écrit, bonsoir, c'était une belle époque, je l'ai toujours suivi avec ce grand ami Max Minier qui présentait sur RTL, effectivement les routiers sont sympas, c'est d'ailleurs en plein milieu de cette époque, hein. D'ailleurs Max Minier et les routiers et les lignières du Moyen-Orient qui les a suivis aussi, bon courage à tous ceux qui l'ont vécu. Bisous. Valérie également nous a écrit, j'ai eu un oncle qui a tiré pour la vide VIT. Alors, il faudrait me dire ce que c'est, parce que là, moi vite, c'est en fait ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de pas aller vite. Mais j'imagine que vite a une signification. Je le mangeais des yeux lorsqu'il nous parlait de ses voyages. Amitié, signé Scania 05. Et puis Francis également nous a écrit, mon petit frère Didier, un lignard du Moyen-Orient chez les transports. Alors là, je sens que je vais me vautrer. L'OMPEC, l'OMPECH, je ne sais pas. Toute une histoire, non une encyclopédie. Eh bien, continuez de réagir. Radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et demain, il va neiger parce qu'il est 22h15 pile.
Direct avec vous, les routiers.
Bonsoir Robert, merci d'être avec nous, ancien lignard du Moyen-Orient, mais tu n'as pas fait que ces trajets qui nous paraissent aujourd'hui assez fous. Avant de parler de ton expérience là-bas, revenons sur ta carrière. Elle a commencé quand?
Alors ma carrière de chauffeur a commencé en fait très tôt, puisque avant 1974, où j'ai passé mon permis poids lourd. Mmh. Je travaillais comme chauffeur sur des véhicules utilitaires légers, quoi, pour payer mes études, en fait. Donc, j'étais étudiant salarié et je travaillais comme chauffeur, quoi, voilà, dans le bâtiment et dans les glaces, les crèmes glacées, et divers boulots, dont certains inavouables aujourd'hui, même s'il y a prescription. Quoi. mais honnête quand même.
Bah, heureusement. Est-ce que tu as toujours eu envie de faire ce métier de conducteur routier, ou tu avais d'autres rêves à la base?
Et à la base, j'avais des rêves de voyage. C'est-à-dire que je suis venu à la route par des rêves de voyage. Quand je dis la route, c'est-à-dire j'ai fait la route en stop, en vélo, en moto, en cyclomoteur, en voiture. Et de plus, effectivement, le plus enrichissant et le plus loin, ça a été en fait un camion. J'aimais bien les camions aussi, en tant que véhicule. Je ne suis pas fanat de la mécanique, des courses, etc. etc. mais j'aime bien la mécanique, les beaux véhicules et les véhicules intelligents. Et par conséquent, j'ai été intéressé par les poids lourds, d'autant plus que j'avais à côté de chez moi, à 300-400 mètres, les entrepôts Onatra, une grande entreprise qui maintenant a disparu, qui était à côté de ma maison. Et donc, quand j'étais petit, à 4 ou 5 ans, j'allais zoner dans le coin, regarder les camions, discuter avec les chauffeurs. On était 3 ou 4 gosses qui passaient un bon moment au milieu des camions, à les écouter, à les regarder, etc. Voilà. Et ça me faisait... Moi, je rêvais de voyage. Bon, on a trois... À l'époque, les dépôts de Marseille n'allaient pas au Moyen-Orient, mais enfin, ils allaient en Italie. Et pour moi, c'était le voyage à l'Italie. Quoi. Ouais. C'était loin, quoi.
C'était déjà loin.
Alors, comment on se retrouve ? Alors je pose beaucoup de questions bêtes depuis le début de soirée, parce qu'on découvre pour beaucoup d'entre nous tout ce que vous avez fait. Comment on se retrouve à faire des trajets vers le Moyen-Orient ?
Ben d'abord parce qu'on en a envie.
Ah oui, c'est une bonne raison déjà.
On ne trouve pas comment, parce que c'est un milieu assez fermé. Puis en principe, les entreprises qui le faisaient avaient leurs chauffeurs qui se retrouvaient, qui se donnaient des tuyaux les uns aux autres, etc. Et ça marchait. Et puis, après, il y a une part de hasard. Bon, il se trouve que j'ai fait un boulot qui était parfaitement inintéressant, parce que je ne trouvais pas d'autre à l'époque, et que j'étais au chômage de chauffeur de manœuvre sur le port de Marseille. Et que le dirigeant de l'agence des transports Olivier de Marseille, le transport Olivier qui n'existe plus, mais qui était une boîte qui est très connue dans le Nord, eh bien, ce chef d'agence avait fait le Moyen-Orient, était même un des piliers du Moyen-Orient, avec les caravaniers de France, qui ont été parmi les premiers à aller sur la route du Moyen-Orient. Et c'est lui qui m'a branché avec une entreprise qui, à côté de Marseille, faisait le Moyen-Orient. Les transports Yukoum qui sont bien connus.
Et qu'on a entendu tout à l'heure.
Et que vous avez entendu, pas moi, parce que je n'ai pas pu me connecter à votre radio.
Zut.
De Marseille. Bon. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit. Si je répète des choses, vous m'arrêtez.
C'est pas grave.
Donc c'est comme ça que j'ai été mis en contact. Parce que j'ai dit donc à ce monsieur, monsieur Gilles Dateau, aujourd'hui qui est mort. Écoute, je veux faire le Moyen-Orient. Pour moi, c'était un peu faire le Moyen-Orient, c'est un peu comme pour un marin doubler le Cap Horn, quoi. Voilà. Je n'ai jamais fait le col du Tahir, qui était mon rêve, puisque ça, c'était la route de l'Iran. Et je le ferai peut-être, mais en moto ou en voiture, mais plus en camion, puisqu'il y a une route maintenant tout au moderne qui passe à côté du col du Tahir. C'est un col qui est entre la Turquie et l'Iran.
Ah, maintenant qu'il y a une route nickel, tu ne veux plus l'emprunter ?
Voilà, ça ne m'intéresse pas. Bon, j'emprunterai volontiers, mais j'aimerais bien refaire cette route-là, donc qui est devenue un chemin de terre. C'est dans mes projets, quoi, voilà.
Est-ce que tu as déjà eu peur sur ces trajets vers le Moyen-Orient ?
Alors, on a un peu discuté l'autre jour, je n'ai eu peur que pour des situations de conduite dangereuses.
Ouais.
Voilà, comme j'ai pu avoir peur aussi, tout simplement en France, que ce soit en moto, en camion, en voiture, etc. Jamais d'agression, de choses comme ça. Bon, il y a des mythes qui ont couru sur les agressions au Moyen-Orient et tout. Il n'y a pas eu plus d'agressions au Moyen-Orient qu'ailleurs, peut-être même moins. Je veux dire, j'ai traversé des zones avec des populations plutôt paisibles et plutôt disponibles, notamment dans le Kurdistan, où j'ai des souvenirs assez importants. J'ai quand même une fois eu peur. Et on a discuté l'autre jour, je ne pensais pas à ça. Hein. J'ai eu peur tout simplement parce que, bon, ça a l'air on va dire que je me la joue Rambo et tout. Mais c'est pas Rambo, mais c'est quand même une aventure. C'est dans le col entre la Turquie et l'Irak, le col de Zaro. Je me suis retrouvé encerclé par une trentaine de soldats, mitraillettes avec le chargeur enclenché.
Alors
pourquoi, quand on dit ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé et tout? Tout simplement parce que j'étais en train de transiter, avant de passer à la douane, des jerrycans de gazole dans les réservoirs du camion. qu'on m'avait donné, qu'on donnait aux chauffeurs, pas qu'à moi, hein, qu'on donnait aux chauffeurs dans les entreprises qu'on livrait en Irak. Et il était interdit de passer des bidons pleins de gazole. Alors, on roulait entre, on va dire, entre Bagdad, par exemple, et cette frontière, là, environ 500 km. Et quand on arrivait avant de passer la douane, eh bien, on transvidait les bidons de gazole dans les réservoirs. Il y avait un contrôle ensuite par les Irakiens de la capacité des réservoirs. En gros, ils mettaient un tisonnier dans le réservoir, puis en fonction du nombre de bouquins porno ou petits cadeaux comme ça, petits bakchiches qu'on leur apportait, ben ils mettaient 100 litres, 80 litres, des choses comme ça. Alors qu'on passait avec les réservoirs archi-pleins, quoi.
D'accord.
Bon, c'est... et là, il se trouve qu'en général, on faisait les transferts en bas du col avant de l'attaquer. Puisqu'après, ça arrêtait dans le col et redémarrer, c'était parfois très difficile vu le col quand même qui était assez compliqué à passer.
Oui, parce qu'on peut peut-être, on peut peut-être
sur la route qui glissait. Enfin, bon,
Robert, on peut peut-être rappeler à tous nos auditeurs là qui nous écoutent que les camions c'était vraiment pas les mêmes pour monter les cols.
C'est-à-dire
qu'il n'y avait pas l'automatique. Excusez-moi, l'embrayage automatique.
Ah ben non, non,
voilà.
Mais je suppose qu'aujourd'hui, si le col est dans le même état, c'est-à-dire, bon déjà les virages, le pourcentage, etc., c'était un col assez compliqué quand même. Et ensuite, il se trouvait qu'il y avait beaucoup de petits camions turcs qui transportaient du brut chargé en Irak et qui ramenaient en Turquie, bon, laissaient des traces de gazole. Et quelquefois, bon, il y avait des phénomènes de patinage qui étaient assez délicats à contrôler, quoi. Et s'arrêter dans le col avec un peu de gazole sur la roue, ça veut dire qu'on ne repartait plus. Donc le transfert des bidons se faisait avant d'attaquer le col. Mais moi, comme je n'avais pas l'habitude, j'ai attaqué le col, je me suis retrouvé dans le col.
D'accord.
Et avant de passer la douane, je me suis dit, bon, tu vas trouver un coin pour t'arrêter et faire le transfert. Et donc c'était en pleine nuit. Et il se trouve, alors ça c'est la petite histoire, hein, et la géopolitique, il se trouve qu'il y avait des maquis kurdes, des guérillas et des contrôles de troupes armées irakiennes.
Oui.
Et ils ont vu un camion arrêté, et ils sont donc venus encercler ce camion arrêté, qui pour eux était un camion suspect. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec des projecteurs dans les yeux et, bon, sans exagérer, une trentaine de personnes autour de moi avec mitraillette, chargeur enclenché. Et là, je me suis dit que si j'éternuais, ça pouvait très mal finir. Que j'ai eu vraiment peur. Quoi.
Oui, bah, c'est-à-dire que personne ne ferait le fier avec 30 gars, 30 militaires armés prêts à tirer. Effectivement.
Voilà, plus, je sais qu'ils avaient plus peur que moi, puisque c'était tous les planqués qui n'étaient pas à la guerre sur le front avec l'Iran à l'époque qui se retrouvaient à la frontière turque. Quoi. C'était
d'accord.
Les fils à papa, les planqués, on va dire. Voilà.
Et tu transportais quoi, toi, de ton côté, dans tes camions vers le Moyen-Orient?
Qu'est-ce que j'ai transporté? Oui, du matériel pour technique électrique, des voitures, des espèces de pick-up Peugeot carrossé par du Rissotti en France. Et j'ai transporté des billets de sel, ça c'est original. On transportait du sel en Irak pour le système de filtrage de l'eau à Bagdad. D'épuration d'eau, avait besoin de billets de sel calibrés. Et donc, il y a du sel qui partait de France et qui arrivait à Bagdad. Ça, c'est original, quoi. Mmh. Et puis un peu de tout, quoi. Un peu de tout.
Il y
avait une entreprise qui travaillait, qu'on transportait de tout. Hein,
Mais même passé à la retraite aujourd'hui, Robert, tu veux rester, toi, connecté au monde de la route?
Je suis par des abonnements à des journaux routiers, toujours avec des anciens élèves qui font la route, puisque j'ai fini ma carrière comme professeur dans un lycée professionnel dans une section de routier.
Oui.
Donc j'ai encore des contacts avec la route, je ne sais pas près ce qui s'y passe. Mais
il faut quand même rappeler que Robert a une maîtrise de français à la base, de lettres plus précisément, si je ne m'abuse.
Ben oui, puisque j'ai payé mes études en étant chauffeur, et donc j'ai plus jamais fini mes études parce que j'ai joué le CAPES à l'époque, c'est-à-dire le diplôme pour être prof de français, mais j'ai fait des études de lettres, voilà, ça c'est vrai. Ce qui me permet d'ailleurs d'écrire à la fois, entre guillemets, mes mémoires, et de proposer à ceux qui ont vraiment fait la route longtemps et qui savent pas trop comment l'écrire, quoi, parce que ben voilà, parce qu'ils ont pas fait d'études pour telle ou telle raison, de leur servir un peu de nègre, comme on dit.
Eh ben je serai ton premier lecteur et tu reviendras nous en parler de ce livre une fois qu'il sera réalisé, parce que je pense qu'on en a encore plein de choses à apprendre. En tout cas, Robert, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps avec toi, avec nous plutôt, d'avoir, tu vois, j'en perds mes mots, moi, avec tous les témoignages qu'on a depuis le début de cette émission. En tout cas, je te remercie et on se dit à très bientôt.
Ben merci et à bientôt, et avec plaisir en tout cas.
Merci beaucoup, Robert.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Auriez-vous aimé être un lignard du Moyen-Orient? C'est notre sondage à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez me dire pourquoi ensuite. Au plus loin, où êtes-vous déjà allé? Est-ce que vous avez conscience et connaissance de cette époque qui nous paraît si loin? Et pourtant, elle a bien existé. Nous allons continuer d'en parler dans un instant. Ewen nous a écrit « Bonsoir à votre équipe, petit coucou à Pierre et un joyeux anniversaire à Julien Guillet ». Et ben voilà, le message, il est passé. Oui, Pierre, mais je vous jette pas la pierre, Pierre, on en parle dans un instant. Radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et n'hésitez pas à me parler, vous aussi, de ce que vous connaissez peut-être des lignières du Moyen-Orient. Est-ce que ça vous aurait dit, vous, d'aller jusqu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient? Alors, on sait qu'aujourd'hui, ça serait vraiment très, très compliqué, surtout vu le contexte actuel. Mais est-ce que c'est des destinations qui vous auraient fait rêver? Nous allons continuer d'en parler ensemble. Mais pour l'instant, tiens, allez, on va se faire un peu plaisir aussi des chansons qu'on connaît. Si je vous dis Dalida. Sylvain Dillot, la Dream Team, nous a écrit. Alors déjà, au départ, il nous a écrit « Est-ce que Katharina peut... »
Deux prénoms russes, ça marche. Je comprends la confusion.
Mais il nous dit, désolé, Tatiana, en même temps, les deux ont autant de voyelles, des I et des A. Il nous a envoyé un message en morse. Alors moi qui ne sais pas le lire, je vous laisse...
Après, c'est pas rapide, hein, la traduction du morse.
Je vous laisse regarder. Voilà, c'est Sylvain de Yola Dream Team qui nous a écrit. Je vous laisse le temps de regarder ce message en morse. Message également reçu... Voilà, j'ai retrouvé le message. Thierry qui nous a écrit. Alors Thierry nous dit, j'ai eu un accident en Macédoine, à la frontière avec la Grèce et la Yougoslavie. Je suis tombé en rebâchant ma savoyarde et je me suis... Ah oui, il s'est éclaté quelque chose d'un homme. Voilà, pour les hommes, vous voyez, c'est central, c'est névralgique, je dirais même. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je ne sais pas, Hervé, si on a l'image... Voilà, il s'est éclaté un bijou de famille, voilà,
oui, ça y est,
j'ai trouvé. Il m'a fallu 5 jours pour rentrer dans les pires souffrances. J'ai raté le bateau à Patras pour Brindisi, car j'avais du mal à avancer. Arrivé à Vintimille, j'ai été rapatrié sur Nice, puis Marseille, où j'ai été opéré. Laisser le camion en Grèce, c'était impensable. L'homme et le camion étaient indissociables. À l'époque, ni téléphone, ni GPS, je me suis débrouillé au mieux pour ma personne et pour le camion. 1800 km les plus longs de ma vie, mais la fierté d'avoir rapatrié l'homme et la machine, c'était une autre époque. Merci pour votre émission. J'ai des frissons depuis 2 heures. Je ne sais pas si tout le monde est en train d'imaginer le calvaire qu'il a pu vivre sur 1800 km. Voilà, Hervé, ça vous a...
C'est inconfortable. Si en plus il y avait de fortes températures, c'est encore pire.
Les histoires qu'on a depuis le début de cette émission, je pense que personne n'était prêt à entendre, à mon avis, les trois quarts. Thierry qui nous dit, Robert Rizzo, qu'on a reçu tout à l'heure, il était des nôtres la semaine dernière. Merci beaucoup à Thierry pour le message. Nous avons également reçu un message de monsieur Jean Bon. Oui, ben c'est son nom. Hein. En fait, qui s'appelle...
Ah oui, mais... De Bayonne.
Voilà. Bon, en fait, je l'ai rencontré ce week-end et son prénom, c'est Jérôme. Voilà. Oui. Bonsoir Sebamax ainsi qu'à Tatiana et Monsieur Miam Miam. Super sujet ce soir. Pour moi, ce sont des légendes. Ça aurait pu me plaire. C'était la belle époque des routiers sont sympas et la solidarité. J'ai pas dépassé les frontières de la France en camion. Sinon, je commence à récupérer mes mollets. La prudence à ceux qui roulent de nuit. Oui, parce que je dois vous avouer qu'il faut beaucoup marcher aux 24 heures camion Le Mans. Hein, quand même, hein. On a fait. Je crois que j'ai fait mon sport pour 2025 et 2026. Hein, de toute façon, voilà, ça c'est sûr. Merci Jean pour le message et le témoignage. Je vous emmène à présent avec le message de Sylvain dit tonton. Salam alaikum Mathieu Seb du Bled, nous dit-il. J'écouterai le replay car ce soir, c'est le Moyen-Orient du Nord qui gagne 1-0 contre le Moyen-Orient de l'Espagne. En attendant les 1 heure de plus, Inch'Allah. Il m'envoie un sondage avec plus 1 heure. Enfin, je t'expliquerai. Hervé, il y a un match de foot ce soir.
Oh, il y a plein de matchs de foot parce
que
maintenant,
il se passe quoi ?
Bah, cette année, il y a la Ligue des Champions. C'est une poule unique.
Oui.
Avec 36 équipes.
Oui.
Et tout le monde se rend compte. Enfin, tout le monde, non. Il y a 8 matchs qui sont programmés. Alors, il n'y a pas de match retour. C'est un match à la maison, un autre match à l'extérieur. C'est alterné comme ça. Il y a 4 matchs à la maison, 4 matchs à l'extérieur. Et donc, des niveaux différents entre les équipes. Mais c'est une poule unique, 36 équipes. Et à la fin, il y aura 8 qualifiés pour les 8e de finale d'office. Des barrages entre les 16 meilleurs suivants. Et ainsi de suite. Donc, ça va plus de matchs, plus. Plus de passion, enfin. Ah. Et c'est vrai que ce soir, Lille, pour l'instant, mène 1-0 face au Real Madrid. Donc c'est le...
D'accord. Lille, voilà, qui mène face au Real Madrid.
Au Real Madrid,
oui. Oui, je suis plutôt nul en foot, mais je trouve que c'est quand même une bonne opération, quand même.
Ah oui, oui. Pour l'instant, c'est pas terminé, mais
oui.
Ça sent bon.
Ça sent bon. Ça sent bon, comme... Il y a Jean Bon, et ça sent bon. Pardon. Excusez-moi. Je suis désolé, au bout d'un moment, voilà. Radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message pour nous partager vos trajets au plus loin. Où est-ce que vous êtes allé ? Est-ce qu'être un routier du Moyen-Orient, ça vous aurait plu ? Eh bien, il n'y a plus qu'une minute pour voter à notre sondage. Radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue, mais d'abord, vous cliquez sur le bandeau orange pour voter, et ensuite, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger pour pouvoir nous envoyer votre message et votre témoignage. La suite et la fin, c'est après l'infotrafic. D'ailleurs, je me posais la question si en plein désert au Moyen-Orient, il y avait des sorties. Voilà, c'est une question que je me pose comme ça, que j'aurais dû poser à nos invités tout à l'heure. Auriez-vous aimé être un linéaire du Moyen-Orient ? Peut-être que nos invités vous ont peut-être donné envie, parce que vous êtes 59,4% à nous dire que oui, vous auriez aimé être un linéaire du Moyen-Orient. Ça, je suis sûr, Hervé, que c'est un truc que vous auriez aimé faire.
Ah oui, j'aurais aimé, mais je n'avais pas les moyens.
Ah oui, bah oui, oui, oui.
Voilà,
oui,
en Orient.
Allez, oui, c'est...
Sans blaguer, c'est vrai que ça dépend de l'époque, parce que maintenant c'est un petit peu compliqué,
oui.
À moins de faire la ligne en char d'assaut.
c'est pas faux.
Sinon, ça aurait été sympa, bien sûr, surtout d'être confronté aux populations locales, sympa.
Tatiana, vous, je suis sûr aussi que ça vous aurait plu, vous.
Oui, c'est sûr. Ouais, pour toutes les cultures, pour la nourriture, vous m'avez dit que vous parliez beaucoup de nourriture dans l'émission. La nourriture moyenne-orientale, quand même, c'est quelque chose. Aussi.
Oui. Après, il faut une grue pour se relever après avoir mangé, généralement. Voilà, <c'est... rire> faut une grue. Alors, je n'hésite pas de vous présenter celui qui a été avec nous en studio tout au long de cette émission. Vous le connaissez très bien, mais alors, il était de passage sur la région parisienne et il est venu nous faire un petit coucou ici à Nanterre. Il a suivi l'émission comme vous toutes et tous. En plus, on s'est croisés au Mans. Je crois qu'on ne se sera jamais autant vu depuis ces derniers jours. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Seb.
Merci d'être là. Donc, tu as passé toute cette émission avec nous, bien sagement. D'ailleurs, c'est très rare, bien sagement.
Merci.
Je plaisante. Pierre, tu as entendu tous ces témoignages et témoignages des auditeurs. Tu as voté quoi, toi, au sondage ?
Moi, personnellement, j'aurais pas eu le courage.
Ouais. Ah, que le courage, carrément.
C'est, voilà, c'est. Enfin, c'est s'éloigner très loin quand même.
Oui.
À ce moment-là, il n'y avait peut-être pas les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui.
Oui.
On parlait du Telex tout à l'heure, ça m'a sorti les yeux de la tête parce que je ne savais pas du tout ce que c'était.
Voilà.
Oui, mais... le morse non plus.
Ça, c'était une spécialité là-bas, Tatiana.
Lui, c'est sûr.
Oui, donc non.
Oui, mais après, à la différence, sur la soirée, j'en ai eu pris plein les yeux. Parce que on découvre le studio et en même temps du coup j'en ai pris plein les oreilles parce qu'à écouter Guy toute la soirée là c'était c'est un bonheur.
Ah bah oui.
Un bonheur. Moi enfin si on avait pu faire une émission de 3 heures potentiellement.
Ah bah tiens, il y avait longtemps, je me disais aussi que ça allait me tomber dessus.
Voilà, une petite émission de 3 heures à écouter Guy, ça aurait été un bonheur.
Luffy qui nous dit un coucou à Pierre, notre ronflex national. Salut, bon vent à toi et à bientôt. Bon alors ça t'a fait quoi de voir l'émission de là depuis le studio?
Franchement?
Oui.
Bah, je reviens demain.
Ah, il faut le voir pour le croire.
Ah non, mais oui totalement. Ouais. Demain, c'est playlist, ça va danser dans tous les sens, franchement.
C'est ça, voilà. Tatiana va nous faire découvrir ses talents cachés demain soir. D'ailleurs, talent caché, le morse, est-ce que vous avez réussi à déchiffrer le message?
Le problème, c'est que je n'ai pas de talent caché pour trouver les messages. Alors, c'était ma première émission,
oui.
Et j'ai cherché, et je n'ai pas retrouvé ce message.
Je te le montre après.
Et je le traduis.
Et tu le traduis pour demain, voilà.
J'ai des devoirs en plus pour demain.
C'est ça. Bah oui, tu me connais pas. Bon, je vous emmène en Amérique du Nord, figurez-vous, à présent, parce qu'il y a Julien qui nous a écrit, Julien, fidèle auditeur, conducteur routier français, mais qui lui, pour le coup, fait de la ligne aussi, mais 4000 km d'est
en ouest,
XXL également, mais en Amérique du Nord. Julien nous dit bonjour la forme pour le sujet du jour. Quand je roulais en France, j'ai toujours voulu faire de l'étranger, mais c'était difficile avec les anciens chauffeurs qui ne voulaient pas laisser leur place. Oui. Mais en France, l'été par l'étranger sont difficiles et peu nombreux. Maintenant, en Amérique du Nord, je suis satisfait des voyages au long cours. Il est à Springfield avec 26 degrés et grand soleil. Bonne soirée à tous. C'est pas dans cette ville que il paraît que... Mais je dirais pas le reste parce que c'est tellement ridicule. Je vous invite à réécouter les débats américains. Ça ne vaut même pas le coup que je m'y arrête. Merci Julien en tout cas pour le message. Oui, le Moyen-Orient, de toute façon, forcément, ça peut que faire rêver. Et tu nous disais que tu aurais pu rester des heures à écouter Guy, Pierre.
Ah mais totalement.
Ouais.
Et si j'avais été au Moyen-Orient, j'aurais ouvert l'application pour écouter. Peut-être pas à cette époque-là, mais bon.
Voilà. Non, je ne suis pas sûr qu'il y avait des applications dans les années 70, 80. Ça ne devait pas trop exister. Hervé, vous confirmez?
Ah, je confirme totalement.
Message. Alors attendez, parce que là, j'essaie de m'y retrouver dans les messages que vous m'avez envoyés. Tiens, Sarah qui nous a écrit tout à l'heure pour la voiture, Sarah 86, est-ce que le Moyen-Orient, ça t'aurait dit? Charlie nous a écrit également, je ne sais pas si tu as pu lire le message précédent, mais en tout cas, merci beaucoup. Bonne émission à toi, la prudence, tous les vrais routiers de France, hashtag respectons les routiers. Voilà, message qui est passé. Thierry qui continue de nous envoyer quelques photos d'ailleurs. Thierry, si tu peux me donner l'autorisation de les publier en fin de semaine avec le replay de cette émission, ça serait vraiment chouette. Tatiana, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première émission avec tous ces routiers qui allaient au loin naviguer? Vous avez appris des choses?
Ah bah, j'ai appris plein de choses, puis ça m'a fait un petit peu voyager quand même, du coup, même si... J'ai bien compris que c'était une époque révolue, mais ça fait vraiment voyager, ça c'est sûr. Et puis avec la playlist qui m'était, je m'y croirais presque. Et puis j'ai jeté un œil dehors et je me suis dit, bon non. On n'est pas tout à fait au Moyen-Orient. La température n'y est pas, la météo n'y est pas.
Voilà, c'est ça. Mais comme disait Hervé, aujourd'hui, il faudrait un char d'assaut pour faire les lignes du Moyen-Orient. Hervé, vous... Alors, on est tous les deux, Hervé et moi-même, à avoir connu des périodes où il y a eu la guerre en Irak. Hervé, vous avez connu le rideau de fer, sans méchanceté, sans blaguer, qu'on soit bien d'accord. Mais vous entendez ces témoignages, j'imagine que quelque part ça vous parle, Hervé, parce que c'était des périodes où on se posait quand même pas mal de questions, Hervé.
Ah oui, oui, bien sûr. C'est déjà, dans l'imaginaire, on pense forcément déjà, quand on entendait tout à l'heure parler Madame Youkoum de des voyages en Afrique, on pense forcément à Charles Vanel et à Yves Montand dans Le Salaire de la Peur, par exemple. C'est vrai que c'est toute une époque. Hein, c'était complètement différent. C'est sûr que maintenant, il y a des pirates de la route, mais des gangs organisés qui vous braquent à tous les carrefours. Donc, c'est un petit peu différent, quoi. À l'époque, c'était peut-être vraiment l'aventure, mais l'aventure, si on était armé et débrouillard, on s'en sortait quand même assez facilement, alors que maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué.
Il y a Thierry qui termine bien, parce qu'il nous aura suivi tout au long de l'émission. Il nous envoyait plein d'infos, plein de photos. Il nous dit, après avoir roulé sur la Turquie, être descendu en Égypte par la Libye et la Tunisie, ou encore traverser le Sahara en rallye raid, aujourd'hui entre Bilbao et Bologne, j'ai l'impression de faire du régional. Ok, pas de problème pour publier les photos. Bonne soirée à toute l'équipe. Merci Thierry. Celle-ci, je vais la garder. Aujourd'hui, entre Bilbao et Bologne, j'ai l'impression de faire du régional. Kevin nous a écrit également. Bonjour la team, merci pour cette émission. Et salut à toi, mon petit ronflex. Bon vent à toi. Ancien collègue signé Batman 2.0. Tu connais ?
Batman 2.0, c'est mon collègue qui fait les relais de nuit, du coup.
Oui.
Au départ de Laval, pour aller.
C'était
après.
Ton relais à toi ?
Non, du tout. Non, moi, j'ai du jamais tout. Fait de relais.
D'accord.
J'en voulais pas.
Ouais, bon, bah, ça s'est dit, ça s'est fait.
Voilà. Mais voilà. Bon courage surtout. Et je sais qu'il rentre vers 5h du matin, là, donc.
Ouais, et en tout cas, j'espère que ça t'aura plu d'avoir passé ces deux heures en notre compagnie.
Mais ouais, totalement. Totalement. Bah, un voilà. Vrai plaisir. Je passe un petit coucou, du coup.
Eh bah, ben, fais-toi plaisir.
Un bon anniversaire à mon Julien, tiens. Mon meilleur ami.
Happy birthday.
Happy birthday, ouais. Comment on fait déjà le petit bonjour là ? Voilà.
Voilà.
Ça, c'est fait.
Voilà.
Et puis, ben, coucou à tous les copains, les fadas que j'ai quittés dernièrement, mais bon, ils restent toujours dans mon cœur, évidemment. Oui. Hein, Et toutes les personnes qui se reconnaîtront et que je n'ai pas pu donner le nom, parce qu'il y a tellement de monde sur cette communauté de l'émission, c'est magique.
C'est magique. Merci pour ces mots, Pierre. Allez, ça va être bientôt la fin de cette émission. Merci à toutes et tous pour votre participation. Je regarde juste si je n'ai pas oublié quelques messages. Alors si, on avait tout à l'heure TAS44 qui m'a envoyé une petite photo de son camion avec l'autocollant de l'émission qu'il a pu récupérer au 24 heures camion Le Mans. Salut Seb, petite photo cadeau. Merci beaucoup. Et Thierry qui continue de donner plein de précisions sur ce qu'il a vécu. En tout cas, moi personnellement, j'ai extrêmement bien voyagé. Vous pourrez retrouver cette émission en replay dès demain après-midi sur la page de l'émission, sur le site internet de la radio, radio177.fr, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Un dernier mot, Hervé, pour Lille, s'il vous plaît.
Oui, pour Lille. Alors, le temps juste de me connecter avec le stade, c'est fini, ça finit 1-0. Donc,
pour
les Lillois, oui, effectivement. C'est un but de... le Canadien qui marque tous les buts à Lille, c'est Jonathan David.
Un Canadien en football, soccer... Enfin, j'ai rien compris, c'est pas grave. Je me renseigne pour l'actualité de minuit, hein, je vous promets, je ferai en sorte d'avoir des infos. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce soir ici. Et moi je vais remercier également énormément Guy Delaunay et Robert Rizzo des Lignières du Moyen-Orient qui m'ont aidé à préparer cette très belle émission. Merci Tatiana et Hervé, très belle soirée à tous les deux.
Et à demain.
À demain. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Tatiana, bonsoir à toutes et tous. Et vraiment, on en apprend tous les jours, mais les Lignards du Moyen-Orient, c'était impeccable.
Merci beaucoup Hervé. Demain, c'est jeudi, ce sera donc la playlist du...
Jeudi.
Dimanche. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit. Et la prudence ou la bonne nuit. Je vous dis à demain, 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88, soit 212, hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 177, il est 23h.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi, 21h, 23h, sur Radio Vinci Autoroute.